Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, mon invité du jour est Daniel Dory. Il est géographe universitaire spécialiste du terrorisme et membre du comité scientifique de la revue Conflit. La revue Conflit qui vient de sortir son numéro 49 qui porte sur le conflit israélo-palestinien et notamment sur le Hamas qu'a étudié Daniel Dory avec Hervé Théry sur la question « Le Hamas et le terrorisme, une étude de cas instructive ». Bonjour Daniel Dory.
Bonjour.
Alors comme à chaque fois, vous êtes déjà venu sur TV Liberté, on va reprendre avec une notion de base pour débuter ce sujet, puisque c'est un sujet délicat, puisque le conflit israélo-palestinien n'est pas sans soulever systématiquement des sentiments très antagonistes entre les personnes et parfois entre nos téléspectateurs eux-mêmes. Pouvez-vous nous définir le terrorisme ?
Oui, le terrorisme, la façon la plus simple et économique pour le décrire, c'est que c'est un mode violent de communication. C'est donc des groupes, des entités, parfois des individus, qui communiquent au moyen de la violence des messages à des audiences différentes. Et pour comprendre bien la logique du terrorisme, il faut partir des trois strates qui constituent la définition possible. D'un côté, une strate polémique, c'est-à-dire le terroriste et le terrorisme sont le mal absolu, sont les ennemis absolus, et c'est le moyen de mener la guerre par l'intermédiaire du vocabulaire, par l'intermédiaire des images, des représentations. C'est pourquoi, par exemple, que l'État israélien et les gens qui répercutent l'influence israélienne dans le monde tiennent par exemple à dire qu'on assiste actuellement à une guerre entre Israël et le Hamas. Ce qui revient à dire, si on admet que Hamas est une organisation terroriste, que l'État d'Israël est dans le vrai, le bon, le juste, puisqu'il lutte contre un État, enfin contre une entité, pardon, terroriste. Ça, c'est la strate polémique. L'intérêt de la strate polémique n'est ni de décrire ni de comprendre. L'objectif de la strate polémique consiste à désigner un ennemi, à le qualifier d'haïssable, de détestable, et bien sûr, on ne négocie pas avec le terroriste, etc. Tout ça relève de la strate polémique. Première strate. Deuxième strate, la strate juridique. Parce qu'il faut tout de même pouvoir poursuivre et condamner les auteurs d'actes terroristes. Et la strate juridique jamais n'a réussi jusqu'à présent à être consensuel au niveau international. Donc on reste dans les droits nationaux pour inclure le terrorisme dans le code pénal. Et il y a une troisième strate qui est la strate scientifique dont je m'occupe, c'est-à-dire l'analyse du terrorisme en tant que phénomène particulier, qui est un type de violence qui se différencie des autres clairement, qui n'est en soi ni bien ni mal, qui peut être utilisé par n'importe quel acteur en fonction de n'importe quelle cause. Il peut y avoir du terrorisme islamique, du terrorisme juif, du terrorisme bouddhiste, du terrorisme écologiste, etc., etc., etc. Ceci n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la logique et les victimes auxquelles ces actions s'adressent. Et surtout, la catégorie, les identités des personnes victimisées. Et là, on distingue très clairement trois identités. Et avec ça, on termine l'introduction du thème. Il y a une identité personnelle lorsqu'il y a un assassinat politique, lorsque l'on tue un président de la République, un ministre, un chef mafieux, mais une personne irremplaçable, c'est-à-dire que l'on veut tuer cette personne-là et on le fait. On peut avoir des dégâts collatéraux, hein. Si on envoie un missile, on peut tuer toute sa famille, voire détruire un immeuble entier. Mais C'est un assassinat politique parce que l'identité de la personne visée est irremplaçable. Il y a des identités fonctionnelles lorsque l'on s'attaque à des personnes qui appartiennent à des institutions comme
la police, l'armée,
les fonctionnaires territoriaux, les magistrats, les instituteurs, enfin, ce qui tient le maillage territorial d'un État, et ça relève de la guérilla. Et enfin, il y a l'identité que j'appelle vectorielle, c'est-à-dire lorsque les terroristes, parce que dans ce cas-là, il s'agit de terrorisme, s'attaquent à des individus, des personnes, des groupes, non pas individuellement, mais s'attaquent à des catégories de la population qui sont les plus aptes à émouvoir l'audience que l'on veut viser, généralement un gouvernement, par exemple. Enfin, et ceci est tout à fait visible lorsque l'on s'attaque aux enfants, lorsque l'on s'attaque aux femmes, ou lorsque l'on s'attaque à des catégories de personnes. Dans Conflit, il y a quelque temps, nous avons publié, par exemple, une analyse des attentats parisiens de 2015, et on s'aperçoit que les attaques du Bataclan et des cafés et des terrasses ont lieu dans les zones où l'électorat pour François Hollande, à l'élection présidentielle antérieure, ont été les plus forts dans Paris. Correspond au discours des terroristes eux-mêmes au Bataclan, dans lequel ils disaient qu'ils agissaient pour riposter aux décisions de Hollande de bombarder l'État islamique en Syrie et en Irak. C'était surtout en Irak au début, et après ça a été la Syrie. Donc là, on a le public bobo de gauche, jeune, qui se retrouve dans ces quartiers, qui va au Bataclan, etc., ou dans les terrasses. Et on ne vise personne personnellement, mais l'on vise des catégories sociales, qui sont ici les catégories sociales qui constituent la base du régime ou la base du pouvoir
qu'on veut atteindre. Et dans cet article, c'est un article qui n'est pas polémique, hein, que vous avez produit, c'est vraiment une étude. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de l'étude que vous avez faite, est-ce que le Hamas, puisque ça a été une polémique, est une organisation terroriste ?
Oui, au niveau polémique, il a été très important d'insister sur le caractère terroriste. Alors, si on reprend sans polémique, justement, et au niveau scientifique, le Hamas n'est pas en tant que tel une organisation terroriste. C'est une organisation qui recourt au terrorisme, ce qui est très différent. Parce que le Hamas fait énormément de choses. Il distribue de la santé, de l'éducation, il fait des attentats, il fait des actions de guérilla, il fait des intrusions.
Le combat électoral également.
Il fait le combat électoral, il fait le combat de recrutement, de propagande, il fait des activités de financement. Et ainsi de suite. Le Hamas est une entité qui a des fonctions de gouvernance d'un côté, sur la bande de Gaza, et par ailleurs des activités de recrutement militaire et de formation et d'action militaire. Par exemple, les roquettes qui sont lancées, c'est la branche militaire, Qassam, et l'incursion du 7 novembre qui combine...
7 octobre.
C'est octobre, pardon, qui combine des actions de guérilla assez classiques dans une zone très militarisée qui est la bordure de la zone de Gaza et des actions terroristes aussi. Mais insister sur la nature terroriste du Hamas ne présente pas d'intérêt scientifique particulier. Et ça nous amène à un autre débat qui est apparu dans la foulée des attentats d'octobre. C'est est-ce que c'est un mouvement de résistance ou c'est un mouvement terroriste ? Ça reprend le vieux débat, le terroriste des uns et le combattant de la liberté des autres. Ce qui est un faux débat, puisque le terrorisme étant une technique, il est à disposition de n'importe qui. On peut l'utiliser pour opprimer, on peut l'utiliser pour résister. On peut l'utiliser pour transmettre des messages parfois tout à fait étonnants à des audiences, par exemple dans certains mouvements sectaires comme Aum Shinrikyo, qui est une secte japonaise qui a commis une série d'attentats, mais surtout un attentat spectaculaire Uga Sarin au Japon. Le destinataire était vraisemblablement le gouvernement japonais, mais ça passait par la victimation des gens dans le métro. Donc il y a à considérer dans le cas spécifique du Hamas que l'on a affaire à une organisation qui fait de la résistance en recourant parfois au terrorisme, et parfois à la guérilla, aussi à la propagande, aussi à la lutte électorale et ainsi de suite. Et si on se limite l'analyse à la strate polémique, c'est-à-dire que l'on considère une organisation comme le Hamas ou le Hezbollah libanais ou d'autres, mais ici il s'agissait de réfléchir sur le cas du Hamas, si on le considère seulement comme étant une entité terroriste, on s'interdit de penser la complexité de la menace que le Hamas représente.
Et c'est ce que vous semblez dire dans le papier, c'est que finalement, les études sur la masse sont essentiellement faites par des Israéliens et des Américains, oui, qui ont un parti pris et qu'ils n'ont, en recourant systématiquement à la polémique, en mettant le Hamas dans un carcan terroriste uniquement, ils n'ont pas compris l'entièreté de ce qu'était cette organisation, oui, et ont été surpris, puisqu'apparemment, oui, les services israéliens, oui, ont, oui, été, oui, surpris, oui, par les, oui, l'ampleur de l'attaque, oui, du 7 octobre. Donc c'est un tort que de s'être concentré uniquement sur cet aspect polémique.
En stratégie et en guerre irrégulière, il n'y a rien de plus dangereux que d'être piégé par sa propre propagande. Et dans la mesure où Israël a besoin, depuis des années, et surtout depuis 2007, la victoire électorale du Hamas dans la bande de Gaza, c'est 2006, et 2007, c'est le blocus de la bande de Gaza qui transforme cette zone en une énorme prison à ciel ouvert qui amène à comprendre qu'ils ne sont pas contents. Les conditions dans lesquelles les autorités israéliennes ont produit le Hamas, qu'ils ont aidé à développer à l'origine pour combattre l'OLP qui était en Cisjordanie et qui était assez facile à combattre par ses collusions tactiques avec les autorités d'occupation et surtout par son immense corruption. Dans le cas du Hamas, c'est un mouvement religieux qui surgit dans la bande de Gaza, qui va faire de l'éducation, qui va faire de la santé, qui va faire des programmes d'amélioration technologique pour les petits entrepreneurs, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose de compliqué. La branche armée est seulement une partie de l'action du Hamas. Et donc, on a affaire à un dispositif de nature politico-militaire extrêmement complexe et extrêmement performant. Avec, en plus, le fait que le Hamas reçoit 30 millions de dollars par mois via le Qatar, avec l'accord des Israéliens et des Américains, bien
30
sûr.
30 millions de qui?
C'est du financement en partie interne et en partie Qatar et en partie des financements de bienfaiteurs divers et variés, dont une partie l'Iran, une partie d'autres pays du Golfe. C'est très opaque, bien sûr, le financement, mais la Turquie s'y est mise aussi de temps à autre. Mais ce qui est important, c'est que cet argent est transféré dans la bande de Gaza avec l'accord des autorités israéliennes, bien évidemment, sans quoi ce ne serait pas possible puisque la bande de Gaza est fermée hermétiquement. Et ceci permettait de maintenir une pression avec les roquettes qui volaient de temps à autre, pas très efficaces au niveau militaire, mais spectaculaires, permettait de maintenir une situation d'absence de règlement politique. Puisqu'on a en face de soi des terroristes, on ne négocie pas et on ne peut donc pas rentrer dans un processus politique. Donc, les autorités israéliennes de droite, de gauche, du centre, mais surtout de droite et maintenant d'une droite extrêmement extrême, ont toujours eu besoin du terrorisme palestinien qui est qui affecte gravement les représentations d'Israël, beaucoup plus que sa survie possible, qui n'est pas en cause, ont eu besoin de ça pour empêcher une négociation et un règlement politique. Et donc la conception israélienne a été de mener la guerre au terrorisme. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la guerre de George Bush, fils, la guerre au terrorisme après 2001, c'est la réplique à l'échelle mondiale de la guerre au terrorisme israélienne, qui consiste en la répression des attaques et des envahissements de territoires. Ça a été la Cisjordanie, mais ça a été surtout le Sud-Liban, ça a été le plateau du Golan, ça a été le Sinaï, et une pression sur les populations de façon à générer un niveau de mécontentement suffisant pour avoir une dose d'attentats suffisant pour avoir cet ennemi qui, comme je l'ai dit, bloquait le règlement politique du conflit. Ce qui donne l'idée classique israélienne d'un niveau relativement supportable de terrorisme, et c'est l'idée des stratèges israéliens qu'il faut de temps à autre tondre le gazon. C'est-à-dire intervenir, par exemple, en Cisjordanie, ce qu'ils font maintenant, et intervenir à Gaza. Ça marche très bien pendant un certain temps, à la condition d'avoir affaire à du gazon. Or, le Hamas n'est manifestement pas du gazon terroriste.
Justement, il y a eu une sous-évaluation de la force armée.
Il y a eu une erreur d'évaluation de la capacité opérationnelle du Hamas, parce que le Hamas, ayant une base réelle, c'est pas un groupe terroriste pendu à une cause quelconque qui intervient de temps à autre sur le champ politique. Le Hamas a une composition que l'on peut presque qualifié de pyramidal, avec une base populaire réelle. Non pas nécessairement parce que tout le monde était pris de l'islamisme et de l'État islamique que le Hamas propose, mais simplement parce que le Hamas fournit des services de base que personne d'autre ne fournit.
Et puis c'est une organisation qui est territorialement intégrée, c'est-à-dire que ce n'est pas une internationale comme il pouvait y avoir dans Al-Qaïda.
Voilà.
Ou dans
et en plus, c'est une organisation spécifiquement palestinienne, et, parce qu'elle n'est pas seulement à Gaza, mais à Gaza, elle est au pouvoir, et spécifiquement palestinienne, qui ne s'est jamais mêlée du terrorisme international. Ce qui explique pourquoi les études sont israéliennes et américaines, très liées à la mouvance sioniste américaine, mais le reste du monde a très peu étudié le Hamas. On a peu d'études de monographiques sérieuses.
On s'est plus intéressé à Al-Qaïda dans les années 2000,
oui,
quand on a, dans les années 2010.
Voilà, fait. Quand on a lancé la marque Al-Qaïda, bien sûr, l'essentiel des chercheurs s'est mis sur Al-Qaïda, parce que ça semble, d'une part, il s'attaquait aux États-Unis, donc à la base de l'Empire du Bien, et d'autre part, ça avait des ramifications dans le monde entier, ça permettait donc d'intervenir sous rubrique d'antiterrorisme dans des pays aussi variés que le Tadjikistan, le Paraguay, l'Irak, le Mexique. Enfin, c'est assez surprenant la mondialisation qu'a acquise la guerre contre le terrorisme, débouchant, bien entendu, sur les mensonges qui ont conduit à la guerre d'Irak.
Et il y a un aspect dans les polémiques qui ont entouré l'action terroriste du Hamas du 7 octobre. Par exemple, des élus de la France insoumise contestaient le caractère terroriste de l'action ou du Hamas. En revanche, on entend parfois, dans des milieux plutôt pro-palestiniens, on parle de terrorisme d'État de la part d'Israël. Est-ce qu'il peut y avoir un terrorisme d'État? Est-ce
que c'est possible? Bien entendu, il peut y avoir un terrorisme d'État. Le terrorisme est une communication violente qu'utilise une entité quelconque, c'est-à-dire un groupe de personnes plus ou moins organisées, plus ou moins nombreux, plus ou moins organisées. Et l'État est une organisation structurée, fortement structurée, mais différente suivant les pays dans son efficacité, pour gérer la distribution de biens sociaux, la distribution de la violence symbolique, l'ordre public, etc., etc. Donc, des groupes qui sont au sommet de l'État peuvent parfaitement utiliser des actions terroristes, soit directement, c'est assez rare, soit par l'intermédiaire de proxys, c'est-à-dire de groupes ou d'entités ou d'autres États qui sont alliés ou dépendants. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, dans le cas du 11 septembre, on sait maintenant que les terroristes qui ont fait l'attentat aux tours jumelles, les 19, dont une grande partie était saoudien, ont bénéficié de la logistique de l'ambassade saoudienne aux États-Unis. Maintenant, c'est dûment, les données ont été déclassifiées. Est-ce que l'État saoudien, en tant que tel, a décidé? On n'en sait rien. Et chacun sait que les services secrets saoudiens, que l'on soupçonne lourdement d'avoir aidé, ne bougent pas un poil de chameau sans que d'autres services au Moyen-Orient ou aux États-Unis n'aient donné le feu vert. Parce que la logique de la sécurité saoudienne passe par l'idée de la protection américaine, laquelle est conditionnée à l'aval israélien dans la région et otanien à l'échelle planétaire. Donc ce sont des choses assez compliquées. Le fait est qu'un État peut parfaitement avoir des pratiques. Il ne peut pas être terroriste en tant que tel, pas plus qu'une organisation quelconque ne peut pas être terroriste, mais un État peut recourir à des techniques terroristes pour faire avancer sa cause, oui. Oui, ils sont.
Et pour revenir au cas précis du conflit israélo-palestinien, quelle est la solution pour éradiquer la pratique terroriste du Hamas? Est-ce qu'il y a une solution pour Israël pour éradiquer ce terrorisme?
Mais dans la mesure où il n'y a pas de débouché politique, il est prévisible que la violence va être, à intervalles réguliers, va être le langage principal. Israël nous dit qu'il intervient dans la bande de Gaza avec une violence absolument inouïe pour éradiquer le Hamas.
Est-ce qu'il ne crée pas plutôt les ferments de vocation terroriste?
Ah non, mais ça, d'une part, c'est très très clair. C'est le fait de massacrer des femmes et des enfants, et que ça se voit dans le monde entier, produit une certaine animosité. Et les enfants qui ont perdu leurs parents dans les bombardements, ou des parents qui ont perdu leurs enfants et leurs familiers dans les bombardements, n'ont généralement pas une estime très forte pour Israël et la cause sioniste. Maintenant, est-ce qu'ils vont se regrouper dans le Hamas? Mais si le Hamas disparaît en tant que tel, il y a une autre organisation, un autre réseau qui va apparaître. Ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, dans la bande de Gaza, il y a plusieurs organisations. Il y a le djihad islamique notamment, il y a le Hamas. Donc, le Hamas est retiré de la bande de Gaza, à supposer que ce soit possible, j'en doute. Une autre organisation va agglutiner autour de la même cause, ou un petit peu modifier au niveau du langage, les mêmes revendications et le même héritage de la résistance. Ce qui, dans la logique djihadiste, puisque c'est une logique djihadiste, nous ramène au fait que ce n'est pas tellement la victoire qui est importante, c'est la permanence de la résistance, ou la permanence du combat. Et cette permanence du combat se fait sous n'importe quelle étiquette. Et ça, on l'a très très clairement vu avec Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Le djihad continue. De temps en temps, il coagule sous le nom d'une organisation. Puis après, cette organisation disparaît. Très récemment, on a vu une succession de califes dans le numéro antérieur de conflit. Nous avons fait un article sur l'obsolescence des califes, qui, ces derniers temps, meurent très très vite. Mais ça n'a pas d'importance pour la logique du djihad, tant qu'il y a des gens qui ont des revendications, des griefs et des messages à faire passer, ils s'organiseront de la façon qui sera la plus efficace, et ce sera toujours une technique, ce ne seront pas plus des terroristes qu'autre chose, mais ils utiliseront le terrorisme s'ils considèrent que c'est la meilleure solution pour faire avancer leur cause.
Merci beaucoup Daniel Dory. Je répète, donc c'est le numéro 49 de la revue Conflit, que vous pouvez vous procurer en kiosque ou sur le site conflit avec un s.fr. Un article écrit avec donc Daniel Dory et Hervé Théry, donc le Hamas et le terrorisme, une étude de cas instructive avec lequel vous pouvez aussi découvrir des cartes qui permettent de bien comprendre le
phénomène. On a fait la carte avec Hervé Théry, on fait toujours une carte maîtresse dans... Moi j'ai fait l'article sur le Hamas seul, et on a en complément une vision qui approfondit la compréhension du Hamas comme mouvement terroriste et comme mouvement de guérilla, c'est-à-dire recourant au terrorisme et à la guérilla, dans la carte maîtresse qui permet d'approfondir le raisonnement.
Voilà, donc un article à lire de toute urgence pour comprendre le sujet sans passion ni polémique. Merci Daniel Dory.
Merci Olivier.
À très bientôt.